homme. Et donc, nous restons ici à Kinshasa pour démarrer nos échanges. Et comme je l'indiquais tantôt au début de cette conférence de presse, nous espérons qu'elle sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus interactive et que nous verrons quand même certains de nos collègues qui n'ont jamais pris la parole au cours de cette année poser des questions. Nous sommes là pour y répondre. Donc, restons ici à Kinshasa. Veuillez éteindre vos portables ou mettez-les sous mode silencieux. Nous commençons par deux questions et toujours, je privilégie les dames. Est-ce qu'il y en a une candidate? Oui, passez le micro là-bas. Oui, rapidement, passez le micro.
Merci, c'est Elvira Panzou pour le compte de la radio-télévision Louange. Mon colonel, vous avez dit dans votre introduction que le numéro 1 de la MONUSCO a exprimé sa profonde inquiétude face à la vague d'arrestations et de détentions. C'était dans un communiqué publié dernièrement à Kinshasa. Et puis, les BCNUDH également vient de condamner la violence et la destruction des propriétés. Ne pensez-vous pas que leur n'est plus au discours, mais le Congo a plutôt besoin de votre soutien et de vos actions. Donc je parle des actions de la MONUSCO sur le terrain. Merci.
Oui, merci madame. Je comprends fort bien votre préoccupation, votre interrogation, mais je pense que l'heure a toujours été à l'action et l'action n'a jamais été en dehors des activités du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, encore moins au niveau du bureau conjoint des Nations Unies. D'ailleurs, c'est ce qui nous pousse à pouvoir exprimer de manière forte notre préoccupation, mais aussi condamner tous ces actes-là. Mais je peux vous dire que au-delà de ces condamnations, les contacts sont établis avec les autorités du pays, mais aussi les contacts sont établis avec ceux qui ont eu à manifester pour pouvoir de manière très claire leur dire que les lois de la République doivent être respectées, certes, mais aussi que leurs droits doivent être préservés et que les manifestations doivent se dérouler dans un cadre tout à fait pacifique, exprimé aussi de la manière la plus pacifique. Donc, nous ne sommes pas tout simplement inscrits dans un discours récurrent ou un discours qui à la limite est rébarbatif, mais non, nous exprimons de manière forte nos convictions, mais aussi en rappelant aux autorités congolaises les dispositions internationales ou en tout cas les engagements internationaux que ces autorités de la RDC ont pris pour que la vie humaine puisse être préservée. C'est ça notre préoccupation et c'est à cela que nous nous attelons tous les jours. Oui, nous prenons une deuxième question ici. Oui, donnez le micro.
Faisant Tumidal pour B1, je voulais demander cette question en disant le gouvernement vient de sortir alors que les dialogues de la CENCO continuent. Est-ce que le deuxième dialogue a encore son sens? Parce qu'on ne sait pas si les résolutions de ces deuxièmes dialogues va être considéré par les membres du rassemblement parce qu'ils continuent à être réticents.
Oui, merci. Effectivement, l'annonce de ce gouvernement était attendue par tous, à mon sens, et bien entendu par les populations congolaises qui sont les premières concernées par la nomination de ce gouvernement qui a été publiée récemment. Mais je pense que tous les acteurs se sont accordés autour de cette question et en premier lieu les représentants de la CENCO qui ont dit de manière très claire que la publication ou l'annonce de ce gouvernement n'avait aucun impact de quelque ordre que ce soit sur la continuation des négociations. C'est vous qui parlez de deuxième dialogue. Nous parlons des négociations qui se poursuivent au centre interdiocésain et qui devraient reprendre aujourd'hui suite à une visite qui a été effectuée par les membres de la CENCO auprès du Saint-Père au Vatican, ce qui d'ailleurs traduit aussi tout l'intérêt que le monde entier accorde à la situation en République démocratique du Congo, notamment le pape lui-même qui a eu non seulement à formuler des prières, mais aussi à tenir une messe pour que la paix puisse prévaloir ici en République démocratique du Congo. Je pense tout simplement qu'il faut saluer cette initiative, il faut l'encourager, il faut la soutenir, il faut l'accompagner, parce qu'au bout du compte, ce qui est recherché, c'est rien d'autre que la paix, mais que les cœurs et les esprits puissent être apaisés, que les divergences puissent être aplanies, et qu'on aille vers quelque chose de plus concret, quelque chose de plus bénéfique pour les populations congolaises, qui en dernier ressort constitue le point fondamental de l'intérêt de tous les acteurs politiques et de l'intérêt de toute la communauté internationale et des amis et partenaires de la RDC. Merci donc, je me rends tout de suite à Goma pour prendre deux questions très rapidement. Goma, vous avez le micro, faites participer le maximum de journalistes, surtout ceux qui ne prennent pas la parole.
Merci, je suis Touvé Oundi de la RTNC. Ma préoccupation se tourne vers les droits de l'homme. Lorsque Félix Bass dit que les manifestations doivent se faire selon le respect des lois en République démocratique du Congo, et les droits de l'homme disent qu'il y a usage abusif de la répression. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une sorte de contradiction lorsque les services de l'État répriment ceux qui partent en dehors des lois que vous semblez appuyer?
Oui, merci José Maria.
Oui, j'ai parlé des usages excessifs de la force et j'ai donné la chiffre de ceux qui ont été tués par les tirs de balles. On a condamné plusieurs fois le déploiement des matériels de guerre dans les contrôles des manifestations et on a demandé aux autorités de manière urgente d'utiliser seulement le matériel de contrôle des manifestations qui n'est pas létal. Il ne faut pas confondre les pièges et les destructions de la propriété ou utiliser ça pour réprimer les droits à la liberté d'expression et aussi d'associations ou de manifestations pacifiques. Nous avons montré la préoccupation aussi par les grands chiffres d'arrestations arbitraires et ciblées avant les manifestations du membre de la société civile, des opposants, des leaders de l'opposition et aussi de ceux qu'ils sont perçus comme opposition. Il y avait un chiffre inquiétant de personnes qui ont été arrêtées par les couleurs de chemise qu'ils portaient. Et comme je dis, je pense que la contradiction et le débat entre la sécurité et les droits libertaires fondamentaux, c'est une discussion fausse. On peut avoir respect au l'aider et il y a beaucoup de pays qui le fait. C'est l'obligation des autorités de garantir la sécurité d'un côté qui n'était pas incompatible avec les droits et libertés fondamentales.
Oui, merci José Maria. Juste, vous me permettrez de rebondir sur ce que Monsieur José Maria a dit. Il n'y a effectivement aucune contradiction a priori sur ce que nous avons dit. Rappelez-vous que Monsieur Maman Sambo Sidikou avait lui-même, encore une fois, appelé à la retenue au calme, mais aussi à la responsabilité des forces de défense et de sécurité congolaises. Parce que, comme nous l'avons dit, certes, les manifestations sont inscrites dans la Constitution, elles devraient se dérouler aussi de manière pacifique. C'est en cela que la responsabilité de tous est convoquée ici, pour qu'on voit de manière très globale ce qui s'est réellement passé. En effet, nous pouvons dire tout simplement que c'est un équilibre qu'il faudra rechercher entre le contrôle des foules, entre le contrôle des manifestations, mais qui doit se faire avec des armes non létales. Et c'est en cela que la condamnation est beaucoup plus forte, parce que s'il y a eu mort d'homme, c'est que l'usage disproportionné de la force a été effectivement mis en œuvre. Et c'est ce qui est déplorable, c'est ce que nous condamnons. C'est en cela aussi que nous interpellons les forces de défense et de sécurité congolaises. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, parce que je pense que même le Premier ministre, lors de sa conférence de presse, a encore une fois interpellé les agents étatiques dans leur responsabilité intrinsèque, mais tout ceci c'est dans le cadre de la préservation de la vie humaine, de la préservation des vies congolais, des citoyens congolais. Donc merci, nous restons à Goma, nous prenons une deuxième question. Oui, Goma.
Merci Vivien Zabarida pour le compte de la radio télévision francophone et du site imbourifar.info. Je voudrais savoir, en fait, par rapport à la CENCO et les différentes classes politiques qui tentent de désamorcer la tension politique qui a eu bien sûr à prévaloir durant cette période de crise. Pourtant, la MONUSCO semble être mise à rebours ou à l'écart par rapport aux travaux en cours des dialogues. Peut-on savoir à quel point la MONUSCO pourrait aider à influencer ses composantes politiques de pouvoir décrisper la situation politique?
Oui.
La question pourrait être adressée à M. Félix Basse.
Merci pour votre question. D'abord, je voudrais relever une inexactitude. Quand vous dites que la MONUSCO a été mise de côté pendant tout ce processus, je pense qu'on l'a rappelé ici à suffisance. Le dialogue qui a été initié par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine sous la facilitation de Monsieur Edem Kodjo était un dialogue congolais. Et nous avons, pendant tout ce temps-là aussi, appelé tous les Congolais à pouvoir dialoguer parce que le dialogue constituait la seule voie pacifique, la seule voie royale qui puisse nous permettre d'aller de l'avant en préservant les vies humaines, mais aussi en évitant toutes les tensions. Les divergences sont fondamentales, les divergences existent, certes, mais ces divergences peuvent être aplanies justement suite à des pourparlers, suite à des négociations, suite à un dialogue entre tous les acteurs congolais. Donc je pense tout simplement que depuis lors, nous n'avons pas cessé de mener nos activités de bons offices, nos activités aussi auprès de certains leaders de la sous-région qui, ne faut pas le négliger, ont joué un rôle prépondérant dans justement les mesures à mettre en œuvre pour créer un environnement paisible, un environnement qui puisse permettre à tout le monde d'aller de l'avant et de se consacrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intérêt du peuple congolais. Mais nous n'avons jamais été mis de côté. Nous avons toujours poursuivi nos activités de bons offices. Nous avons toujours aussi apporté notre soutien aux facilitateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la machine est enclenchée et la CENCO poursuit cette médiation. Il faut féliciter la CENCO, parce que vous savez, ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas une activité tout simplement de tout repos. Donc je pense qu'il faut accompagner cette initiative, il faut la soutenir, il faut aussi mettre tout en œuvre pour que cette activité puisse réussir en dernier ressort. Oui, donc nous revenons ici à Kinshasa, je vais prendre deux questions. Oui, maintenant on peut donner RTNC.
Merci, c'est Venant Vaudissa pour la RTNC. Monsieur Félix Basse, c'est curieux quand même. Si pas Beni, c'est Boutembo. Si pas Boutembo, c'est Beni qui font le théâtre des affrontements. Cependant, c'est dans cette région que se trouve hyper renforcée la sécurité tant des Nations Unies que de nos forces armées congolaises. Alors, qu'est-ce qui serait à la base de ce genre de situation? Aussi, me semble-t-il qu'il y a une importante découverte de cachets d'armes dans la ferme appartenant à l'ancien général Laurent Kounda Batoré. Qu'en est-il? Y a-t-il des informations à ce sujet? Merci.
Oui, merci. Je commencerai par la deuxième partie de votre question concernant cette information relative à la découverte d'une cache d'armes dans la résidence de l'ancien général Laurent Kounda. Je dois vous avouer humblement que c'est la première fois que j'entends cette information. Maintenant, vous avez posé une question qui est fondamentale. Comment est-ce que, avec le renforcement ou la présence assez importante des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des soldats de la paix de la MONUSCO déployés dans cette région, comment se fait-il que ces attaques se poursuivent et en tout cas qu'on les observe tout le temps? Vous savez, d'abord je vais vous dire que la sécurité est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des FRDC, encore moins l'affaire de la MONUSCO, c'est l'affaire de tout le monde. L'affaire des journalistes que vous êtes, l'affaire des populations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de toute cette dynamique, ou en tout cas de toute cette guerre que nous observons à l'Est, il y a aussi des complicités internes. C'est pour cela que nous avons toujours aussi lancé des appels aux populations pour qu'elles puissent nous soutenir, parce que sans elles, rien ne peut être fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le caractère asymétrique de cette guerre-là. Parce qu'il ne s'agit pas de forces en présence organisées de manière classique qui se battraient sur le terrain, parce que nous avons vu cette organisation classique avec le M23. Et c'est pour cela que la défaite du M23 a été beaucoup plus rapide, a été beaucoup plus facile à atteindre qu'aujourd'hui ces quelques éléments qui circulent un peu dans la forêt du territoire de Beni Boutembo. Parce que je l'ai toujours répété ici. Et en cela encore, je rends un hommage à tous les soldats congolais qui, depuis, ont perdu la vie justement pour sécuriser cette partie du territoire congolais en éclatant le groupe ADF rebelle que nous connaissons, qui est le plus nocif dans cette région-là, et en capturant tous les camps, ou en tout cas les bases qui étaient fondamentalement importantes pour les ADF. Ils ont réussi, ces FRDC, avec l'appui de la MONUSCO, à les reconquérir. Maintenant, ce sont de petits groupuscules de 2, 3, 4 ou 5 éléments qui sont éclatés et qui vont dans la nature. La traque n'est pas facile, compte tenu du terrain, compte tenu de la végétation, compte tenu des difficultés aussi à acquérir le renseignement auprès des populations civiles pour nous permettre d'agir à temps réel. Beaucoup de mécanismes, beaucoup d'initiatives ont été mises en œuvre, ou en tout cas ont été prises par les autorités congolaises, notamment en scindant cette zone opérationnelle qui était assez large, en la découpant en deux, sur une ligne de démarcation qui va de Mbao à Kamango, mais aussi en nommant deux commandements opérationnels qui sont distincts pour que les gens puissent définir une zone au sein de laquelle la traque peut se faire de manière beaucoup plus efficace. Et c'est en cela que tout le monde s'attelle tous les jours. Ce n'est pas facile. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, mais ceci ne peut être fait de manière effective qu'avec la collaboration, qu'avec l'apport de tout le monde, l'apport des populations congolaises, mais aussi l'apport des journalistes et des médias, des radios intercommunautaires qui doivent continuer la sensibilisation auprès des populations pour qu'ensemble nous puissions défaire l'ADF et tout autre groupe armé qui SM le territoire de Beni. Merci, nous prenons ici une deuxième question, oui ? Passez-lui le micro.
Merci, Nkeremaï de l'Agence congolaise de presse. Madame Florence, s'il faut préserver la paix ici en RDC, organiser éventuellement les élections avant 2018, est-ce que vous ne croyez pas que le PNUD et les partenaires de la RDC peuvent renforcer et doubler les rapports pour qu'on puisse organiser les élections éventuellement en 2017, puisque la CENI pose justement le problème de logistique, le problème de matériel. Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de doubler votre mise?
Alors, comme vous le savez, le soutien des Nations Unies à la révision du fichier électoral, et on parle bien de la révision du fichier électoral, et clairement, ce soutien est clairement défini dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Alors, qui donne le mandat à la MONUSCO pour le soutien logistique, et comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, ce soutien logistique s'exprime par l'acheminement par voie aérienne du matériel électoral de Kinshasa vers les provinces. Ensuite, concernant le financement, donc la MONUSCO a établi un budget prévisionnel pour ses activités. Il y a un autre volet, vous avez raison, qui est le volet d'assistance technique, qui est pris en charge normalement par les partenaires de la CENI et par d'autres, et mis en œuvre par le PNUD. Ce projet, le projet PASSEC, j'imagine que c'est à celui-là que vous faites allusion, aujourd'hui n'a pas reçu tous les financements escomptés. La raison pour laquelle les financements escomptés n'ont pas été reçus, c'est parce que les partenaires internationaux, les bailleurs, puisque ce projet PASSEC, en fait, n'est pas seulement un projet des Nations Unies, c'est un projet de la communauté internationale qui a demandé au PNUD de prendre en charge la gestion de ce projet. Ces partenaires ont posé des conditions pour pouvoir financer ce projet, et parmi les conditions, il y a celle de l'établissement la publication d'un calendrier précis des séquences électorales. Et en l'absence de la publication précise de ce calendrier, les partenaires, à ce jour, n'ont pas mis l'argent sur la table. Donc ils ont posé des conditions. Pour l'instant, les conditions ne sont pas remplies. Et c'est la raison pour laquelle le projet n'est pas financé autant qu'il ne devrait l'être. Mais cela n'empêche pas la MONUSCO, puisque nous l'avons eu dans notre mandat, elle, d'acheminer le matériel. Tout le matériel, les kits d'enregistrement, les kits bureautiques, les générateurs, les cartes, tout ce matériel qui va permettre de faire fonctionner les centres d'enregistrement, ça, nous le prenons en charge et nous sommes à peu près à la moitié de notre mission dans ce domaine.
Oui, merci donc à Florence. Nous prenons aussi une deuxième question. Oui, nous n'avons pas tellement l'habitude de voir M. Kambéré parmi nous.
Merci. Benoît Kambéré Lusumba pour le compte du journal L'Émergence et les échos de la région des Grands Lacs. Je voudrais revenir sur la question de notre consoeur. Tout à l'heure, il a été dit ici, la semaine dernière, qu'il y a eu une montée en puissance des forces de la MONUSCO, notamment de la police, pour encadrer, pour veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés. Nous savons également que la police de la MONUSCO apporte un appui à la police nationale congolaise. Comment expliquer que la police nationale congolaise continue à utiliser les armes létales? Tout à l'heure, on a parlé de 19 morts, comme si c'était de façon aléatoire. Déjà, un mort, c'est un mort de trop. Que fait la MONUSCO, finalement, pour que ces morts cessent? Et à Osé, il semblerait qu'il a été au domicile de M. Franck Diongo quand il a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et qu'est-ce qui s'y a fait que M. Franck Diongo a été arrêté, j'ai dit.
Oui, donc je vais d'abord passer la parole à José Baria et ensuite je reviendrai sur votre interpellation. José Baria.
Oui, merci beaucoup et je suis vraiment d'accord avec vous. Une morte de trop. Et c'est un plaidoyer constant qu'on a fait avec les autorités pour éradiquer la présence des armements de guerre, des armements létales sur la question de la gestion des manifestations et de la gestion de l'ordre public. Et on va continuer à faire les plaidoyers. Quand j'ai parlé de quels sont les c'est très important parce que on a vérifié jusqu'à un moment la chiffre que j'ai évoqué avant, mais nous sommes en train aussi d'attribuer les responsabilités, qui sont les responsables de ce meurtre. Comme j'ai dit, parmi les auteurs des violations des droits de l'homme qu'on a évoqué était la PNC, bien sûr, mais on a même applaudi parfois que la PNC a amélioré beaucoup dans le déploiement de matériel non létal pour la gestion des manifestations. On a dit ça au mois de juillet, on a dit ça au mois d'octobre, on a dit ça au mois de novembre. Mais parmi ceux qui les morts de la journée, surtout d'hier, nous sommes en train de remplir les enquêtes, mais on a mentionné aussi parmi les auteurs de violations des droits de l'homme, pas seulement la PNC, mais surtout aussi la garde républicaine, la police militaire, et aussi dans la question des arrestations arbitraires, l'ANR, la PNC a aussi leur responsabilité. Mais tout ça sera une partie du rapport qu'on va partager avec les autorités. On pense que le nouveau gouvernement offre une opportunité pour commencer un nouveau dialogue en matière des droits de l'homme. Ça, c'est une opportunité très bonne pour le nouveau gouvernement de montrer qu'il y a une volonté réelle de s'engager en matière des droits de l'homme et de traduire en justice les responsables des violations des droits de l'homme. Ça, c'est une demande qu'on a posée depuis beaucoup de temps aux autorités. Il faut finir avec la culture de la impunité en matière de violation des droits de l'homme par les agents étatiques, il faut introduire une vraie volonté politique pour avoir une tolérance zéro pour les violations des droits de l'homme et surtout au niveau supérieur.
Oui, merci. Donc, je voudrais tout simplement dire que, effectivement, nous avons reçu mandat à travers la résolution 2277 qui nous a été donnée par le Conseil de sécurité de procéder à la formation des agents de la police nationale congolaise afin qu'ils puissent, dans le cadre de l'exécution de leur travail aussi, puissent procéder à ce qu'on appelle de manière très globale à un maintien de l'ordre, maintien et rétablissement de l'ordre. Ceci, au cours de nos différentes conférences de presse ici, je pense que nous avons partagé avec vous toutes les différentes formations qui ont été accordées aux agents de la PNC nationale, de la police nationale congolaise. Je viens encore, lors de la lecture de ma présentation, en faire référence. Donc c'est pour vous dire un peu que certains modules liés justement à la gestion démocratique des foules, mais aussi des modules relatifs au respect des droits de l'homme sont de manière récurrente dispensés aux forces de défense et de sécurité congolaises. Alors, nous avons toujours prôné, d'ailleurs, la non-utilisation des armes létales. Parce que le maintien de l'ordre, le contrôle des foules ne se fait pas avec des armes létales. Et je pense très bien que lors des premières élections, ici, beaucoup d'équipements, beaucoup d'entraînements, beaucoup de formations ont été quand même dispensées aux forces de défense et de sécurité congolaises pour la non-utilisation des armes létales. Évidemment, il y a aussi une question qui est fondamentale. Nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas aux côtés de la police nationale congolaise lorsqu'ils sont déployés dans la ville de Kinshasa. Donc je pense que cette question, on devrait l'inverser, vous devrez la poser directement aux responsables de la police nationale congolaise en leur disant « Mais pourquoi vous utilisez des armes létales ?» Au lieu de dire à la MONUSCO « Pourquoi est-ce que les policiers de la Congolais utilisent des armes létales ?» Donc c'est ce que je peux répondre, et c'est pour cela d'ailleurs, comme l'a dit mon collègue José Maria, nous continuons, nous poursuivons nos efforts en dénonçant, en documentant et en disant à tout le monde que ceux qui ont eu à faire usage d'armes létales, en tout cas qui ont tué des Congolais, devront en répondre tôt ou tard devant les juridictions appropriées. Donc, merci. Nous allons rendre l'antenne à Radio Okapi, mais nous poursuivons cette conférence de presse comme je l'avais tantôt annoncé. Donc, nous repartons tout de suite à Goma pour prendre deux autres questions. Oui, Goma, très rapidement, s'il vous plaît.
Merci pour la parole. Je m'appelle Cosmas Mungazi, promoteur du journal Flambeau de l'Est, journaliste scientifique. Ma question s'adresse à Félix Basse. Je vais partir d'un principe, Félix, le principe de droit qui dit que les textes et accords internationaux priment sur les lois nationales. Aujourd'hui, nous avons observé que la Moscou n'a plus de comportement. Si l'autorité nationale accepte quelque chose, la Moscou aussi emboîte les pas. Le président a accepté le premier dialogue, le deuxième dialogue. Je voulais tout simplement savoir où est la place des textes internationaux qui est la résolution 2277. Merci.
Oui, merci. Je m'inscris en faux contre votre déclaration qui insinue que la MONUSCO est à la remorque des autorités congolaises. Je pense qu'il faut respecter un peu aussi bien les institutions de la République que certaines organisations internationales qui sont là à pied d'œuvre pour contribuer à apporter un peu de réconfort aux populations congolaises qui en ont tant besoin. Alors, donc, vous avez parfaitement raison de dire que les textes internationaux prévalent sur les textes nationaux. Ceci est une règle de droit international qui est largement partagée. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous faites un amalgame entre le dialogue ou le deuxième dialogue. Encore une fois, je le répète, certes la répétition est pédagogique, mais je tiens à le dire une bonne fois pour toutes en cette fin d'année 2016, qui a vu quand même nos échanges s'améliorer et être de plus en plus fructueux pour le bénéfice des populations congolaises. Je voudrais réaffirmer avec force que le destin des Congolais est entre les mains des Congolais. Il faudra être très clair là-dessus. La MONUSCO appuie, accompagne les initiatives qui ont été prises par les autorités de ce pays. Car nous sommes venus dans ce pays aussi suite à l'invitation d'un membre de la famille onusienne en difficulté et nous sommes là pour contribuer à alléger les souffrances des populations civiles. Mais le destin des Congolais, encore une fois, est entre les mains des Congolais, non entre les mains de la MONUSCO. Il faudra qu'on se rende à cette évidence pour comprendre que tout ce qui vient en plus n'est qu'un apport, n'est qu'une contribution, une détermination. Mais le Congo est un pays souverain. Il faudra non plus pas l'oublier que nous respectons. Nous respectons cette souveraineté. Mais respecter cette souveraineté ne veut pas dire être à la remorque des autorités de ce pays. Non, je suis désolé, je ne partage pas cet accord-là, mais nous poursuivrons le dialogue, nous continuons à échanger avec les autorités, nous continuons aussi à exprimer nos points de vue sur ce qui va, ce qui ne va pas, parce que il y a des choses qui vont. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là, mais non, nous ne sommes pas à la remorque de qui que ce soit, nous avons un mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité qui reste et demeure notre seul patron. Merci donc, je prends une deuxième question à Goma avant de revenir ici.
Ici c'est Esaïe Ngungu de la Radio Sautengili. Je voulais savoir qu'est-ce qui bloque la brigade d'intervention parce que nous étions ici présents quand la brigade d'intervention avait fait son entrée ici au Congo, était vraiment applaudie par la population, espérant qu'elle vienne éradiquer toutes les forces négatives des forêts, soit balayer toutes les forces négatives ici dans les forêts de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors je voulais savoir qu'est-ce qui bloque. Merci.
Oui, mon capitaine, vous pouvez répondre, parce que je pense que vous êtes interpellé directement, mais je pourrais compléter.
Oui, bien sûr, merci. Alors, je vais juste répéter ce qui est dit, Monsieur Félix. C'est une guerre asymétrique. Le mode opératoire de cette guerre n'est pas celui d'une force classique contre une autre force classique. Ces éléments-là sont éparpillés dans la jungle. La jungle est très dense. Même avec cette force, même avec les opérations périodiques qu'on fait chaque semaine, mais il nous faut encore un petit peu de temps pour éradiquer, bien sûr, et éliminer tous ces éléments négatifs dans la région. Merci beaucoup.
Oui, merci. Donc, je vais juste compléter pour revenir ce que vous avez dit à l'entame de votre question. Vous avez raison de dire que nous avons tous assisté ici à la mise en œuvre, ou en tout cas au déploiement initial de la brigade d'intervention ici en République démocratique du Congo suite à l'adoption de la résolution 2098 qui donnait mandat à la MONUSCO de neutraliser les groupes armés en utilisant la force. Ceci est une nouveauté bien sûr dans le système des Nations Unies, en tout cas dans les opérations de maintien de la paix, avoir des casques bleus qui sont autorisés à faire la guerre pour neutraliser les groupes armés. Mais aussi, il faut qu'on soit honnête, parce que lorsque cette brigade d'intervention a commencé son déploiement initial, il a d'abord été question de déployer les Sud-Africains, ensuite les Tanzaniens, les Malawites sont venus un peu plus tard parce qu'il fallait non seulement les transférer de la République de Côte d'Ivoire où ils étaient déployés pour arriver ici. Donc ça a pris du temps pour que la brigade d'intervention soit complètement mise en place et soit opérationnelle. Ça, c'est un facteur. Mais nous avions aussi rappelé que la brigade d'intervention n'était pas la panacée. Ça veut dire la gestion, justement, des espérances était une condition que nous avions pris en compte. Que la brigade d'intervention à elle seule ne pourrait rien faire. La brigade d'intervention est venue pour travailler avec les forces de défense et de sécurité congolaises, mais aussi avec les populations congolaises, parce que ils étaient déployés dans un environnement nouveau, il fallait s'adapter. Mais l'un dans l'autre, avec toutes les activités qui ont été menées par la brigade d'intervention, dont l'action la plus éclatante est le soutien au FRDC, pour neutraliser le M23 qui, comme vous le saviez, était une force constituée qui a prouvé à suffisance sa capacité de nuisance parce qu'elle a capturé Goma. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est avec la brigade d'intervention, mais grâce à la vaillance, au courage et au professionnalisme des soldats congolais que nous avons réussi à débouter le M23. Au-delà du M23, beaucoup d'autres groupes armés, quand je prends le territoire de Massissi, vous vous rappelez tout récemment encore, qu'est-ce qu'on avait sur l'axe qui allait de Kachébéré, Mpofi, jusqu'au territoire de Walikale. Mais cet axe était contrôlé de tout temps. Je donne l'exemple de Pinga. Pinga, Tcheka a fait la loi à Pinga, nous l'avons dégagé de là-bas. Je prends le mont Sinaï, où l'APCLS avait son quartier général. L'Alliance pour un Congo libre et souverain de Javier Kariri. Il a été dégagé par les unités de la brigade d'intervention, les Malawites notamment, avec les FRDC. Je peux en citer beaucoup. Comme je le dis, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Mais la brigade d'intervention n'est pas bloquée. La preuve, elle a appuyé les FRDC encore hier, dans la région, le 16 décembre dans la région de Eringeti, pour contrer l'ADF qui avait lancé ensuite une autre attaque sur les camps Garlic et Nadui. Nous sommes toujours là, nous continuons à travailler. C'est un travail de longue haleine. Je ne sais pas si vous comprenez réellement c'est quoi faire la guerre, mais ici nous n'avons pas l'occasion de développer des cours de tactique ou etc. Mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas une chose aisée, surtout dans un terrain, un environnement comme celui de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs sa dimension géographique est à la limite continentale, mais aussi à l'intérieur. C'est difficile. Il y a une multitude de différents groupes armés qui naissent et disparaissent tous les jours. Mais si vous voyez aussi les efforts que font les FRDC et qui aboutissent à certaines redditions, aboutissent à la capture de certains points forts des groupes armés, je pense qu'il faut respecter aussi la conscience des soldats qui sont morts, mais aussi la conscience des casques bleus qui sont morts. Nous en avons perdu un à Butembo. Nous en avons qui sont blessés. Donc je pense qu'il faut être juste et pouvoir aussi poser les problèmes de manière objective. Donc je reviens ici à Kinshasa, je prends deux autres questions. Une à gauche et une à droite.
Parole, c'est Omer Kandembi pour le compte du journal La Prospérité. Ma question s'adresse à Monsieur Rose Maria et au porte-parole. Nous sommes à quelques jours du nouvel an. Quel bilan peut dresser la MONUSCO aujourd'hui sur les plans sociaux, politiques congolais cette année ici? Est-ce que on a avancé ou on a reculé? Si il y a eu des avancées ou des reculs, et que dans vos éléments de réponse, vous trouvez des faiblesses et des points de force de part et d'autre, quel message pourriez-vous aujourd'hui adresser dans l'agora politique congolais et pour essayer un peu de faire, disons, éviter, convaincre la population et les acteurs politiques à éviter des modétations et tout consort. Merci.
Oui, merci. Je ne sais pas si nous avons matériellement le temps de procéder à un bilan, mais ce que je peux vous proposer, c'est que si vous avez besoin d'un bilan exhaustif, à l'issue de cette conférence de presse, je peux vous accorder cette interview. Maintenant, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est ce que je répète, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ce serait pas très honnête de notre part à tous de dire que rien n'a été fait, rien n'a changé depuis 15 ans. Je suis désolé de vous le dire, comme je le répète à suffisance, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, et pour que nous puissions continuer dans cette voie positive, relative notamment à la situation sécuritaire, relative à la situation politique, relative à la situation sociale, je pense que avec les autorités congolaises, avec le peuple congolais, si nous nous y mettons tous, je pense que nous pouvons arriver très bientôt à éradiquer tous ces groupes armés qui SM, parce que la volonté y est, les moyens sont mis en œuvre, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que beaucoup de soldats sur le terrain ne dorment pas. C'est pas évident tous les jours, de patrouiller de jour et de nuit. Rien que cette présence est dissuasive. La présence des FRDC qui se déploient, qui font des efforts, je pense qu'il faut considérer tout cela et dire que, de mon point de vue, l'espoir est permis pour aller vers un futur beaucoup plus reluisant pour les populations congolaises, parce qu'en dernier ressort, ce sont elles qui nous intéressent. Oui, José Maria, si vous avez quelque chose.
Oui, merci beaucoup. Et comme tu as bien dit, je pense que nous n'avons pas assez de temps pour faire un bilan complet. Et je pense que ce n'est pas aussi le moment. Du côté des bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, nous ferons notre bilan de l'année à la conférence de presse, la première conférence de presse que nous serons présentes au mois de janvier. On va présenter le bilan complet. Mais je peux vous dire, en matière d'un bilan provisoire, par rapport au respect des droits et libertés fondamentales, qu'il y avait, comme j'ai dit à la dernière conférence de presse, une augmentation dramatique d'un 300% des chiffres de violation des droits de l'homme qui sont en relation avec l'espace démocratique. Ça veut dire la restriction de l'espace démocratique et de liberté fondamentale, c'est réel. Nous avons montré la préoccupation pour ça. On a profité de cette occasion pour faire le plaidoyer aux autorités, au nouveau gouvernement et aussi à ceux qui participent au dialogue de la CENCO de faire tous les efforts possibles pour ouvrir l'espace démocratique, pour changer la tendance, parce que tout ça est tout ce qu'on parle de questions de droit et liberté fondamentale et d'espace démocratique a beaucoup de relations directes avec les mesures de décrispation. Alors, si on veut créer les climats appropriés pour les élections apaisées et crédibles pour le dialogue, il faut ouvrir l'espace démocratique, il faut changer la tendance, il faut réduire la chiffre de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Oui, merci. Donc nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa. Passez le micro.
Merci. Moi, c'est Flavien Sens pour le compte de Planète Télévision. Messieurs les porte-parole, je reviens sur le rapport de Monsieur le Bureau, des bureaux conjoints des Nations Unies. Il pointe les doigts sur la police nationale congolaise. J'aimerais savoir maintenant la réaction de la police des Nations Unies suite à cette situation. Merci.
Oui, merci. Je pense que Monsieur José Maria, vous êtes interpellé sur cette question.
Oui, j'ai pas parlé sur le monde de la police nationale congolaise. J'ai parlé de la police, surtout en matière d'arrestation arbitraire. Mais j'ai parlé aussi de l'ANR, j'ai parlé aussi de la garde républicaine et j'ai parlé aussi de la police militaire. Alors il faut être juste, parce que de parler des auteurs, ce n'est pas seulement la pensée. Et même aussi en matière de l'usage excessif de la force, nous pensons que la police a fait un grand progrès, surtout depuis du mois d'octobre, avec l'utilisation des matériels non létals. Et ce sont les autres corps que j'ai mentionnés, comme la garde républicaine et le FRDC et la police militaire, qu'ils sont être déployés avec les armements de guerre pour la gestion des manifestations ou la question d'ordre public. Et c'est ça qu'on a trouvé complètement inapproprié.
Oui, merci. Donc, fin de cette conférence de presse. Bonne et heureuse année. Joyeuse fête de Noël. À l'année prochaine. Yeah.